Un octogénaire planté. Bah, pas sans corps de bâtir, mais planter à cet âge, disaient trois jouvenceaux enfants du voisinage, sûrement irradotés. Car au nom des dieux, je vous prie, quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir? Autant qu'un patriarche, il vous faudrait vieillir. À quoi bon charger votre vie des soins d'un avenir qui n'est pas fait pour vous? Ne songez désormais qu'à vos erreurs passées, quittez le long espoir et les vastes pensées. Tout cela ne convient qu'à nous. Il ne convient pas à vous-même, répartit le vieillard. Tout établissement vient à réduire peu. La main des parcs blême, de vos jours et des miens se joue également. Nos termes sont pareils par leur courte durée. Qui de nous, des clartés de la voûte azurée, doit jouir le dernier? Est-il aucun moment qui vous puisse assurer d'un second seulement? Mes arrière-neveux me devront cet ombrage, eh bien, défendez-vous aux sages de se donner des soins pour le plaisir d'autrui. Cela même est un fruit que je goûte aujourd'hui. J'en puis jouir demain et quelques jours encore. Je puis enfin compter l'aurore plus d'une fois sur vos tombeaux. Le vieillard eut raison. L'un des trois jouvenceaux se noya dès le port, allant à l'Amérique. L'autre, afin de monter aux grandes dignités dans les emplois de Mars, servant la République, par un coup imprévu, vit ses jours emportés. Le troisième tomba d'un arbre que lui-même il voulut hanter et pleurait. Du vieillard, il grava sur leur marbre ce que je viens de raconter. Voilà. J'ai fait étudier à vos camarades cette fable-là. Après une petite journée de barrage du lycée, où gentiment les élèves qui barraient ici m'ont laissé passer pour entrer dans la cour, et où il y a un de vos jeunes acolytes qui a dit « on vous laisse passer pour le temps qui vous reste à vivre ». Voilà. J'ai rien répondu à ce blanc-bec, dont je souhaite qu'il soit encore aujourd'hui vivant, ce qui n'est pas certain. C'est ce que nous dit ici la fable. Hein ? Voilà. Alors, arrogance de la jeunesse. Voilà. Vous avez ici une démonstration de l'arrogance de la jeunesse qui croit que tout lui est permis, tout lui est dû. Et voilà, qui découvre peut-être quelquefois cruellement la vie. Hein. Mais vous, vous le savez, pour avoir peut-être quelquefois perdu tel ou tel de vos camarades sortis d'une boîte de nuit en voiture, un petit peu alcoolisé ou avec un conducteur un peu alcoolisé, ou même frappé hein, d'une rupture d'anévrisme ou autre chose qui guette un peu n'importe qui. Parce qu'on n'est même pas obligé de tomber d'un arbre, évidemment, ni d'aller à la guerre, mais quand même, si vous comptez vous engager pour aller vous battre en Afghanistan, sachez que c'est dangereux, au moins autant que de traverser la rue. Hein. Donc, voilà. Bon. À commenter. Donc on va revenir un petit peu sur le texte lui-même, voir s'il n'y a pas des ombres ou des choses. Or, que veut dire le mot octogénaire, tout d'abord? Bon, son âge commence par 8. Hein, c'est comme les teenagers, ça commence par 1. Hein, voilà. Et, donc c'est 80, 81, jusqu'à 89. Hein. Après, octogénaire, ça serait à 90 ans, nonagénaire, d'accord ? Avant septuagénaire, avant sexa, quinca, quinquagénaire pour 50 ans, 40 ans, j'ai pas en tête, tiens. Oui, mais quinquagénaire 50, mais 40 ans, quoi ? Quadragénaire, voilà, c'est ça, c'est revenu. Pour 30 ans, je ne sais pas si on dit quelque chose. Non. Pour 20 ans, peut-être pas. Bon. Donc, il plante. Donc, on est à la campagne. Passe encore de bâtir, mais planter à cet âge. Alors, pourquoi est-ce qu'on lui oppose bâtir et planter ? Quelle est l'idée qu'il y a derrière ? Ben, bâtir, ça prend quelque... Ben, là, on est juste après la tempête, hein, l'allongement de la forêt des Landes. Combien de temps mettront les arbres pour repousser ? C'est un peu cette idée-là. Hein. L'idée... Alors, ils ne plantent pas n'importe quoi. Hein. C'est sûr qu'ils ne plantent pas des radis. Hein, parce que... On vous promet quelquefois des radis au bout de 18 jours, donc il pourrait planter des radis. Hein. On ne lui dirait rien. Donc ce qu'il plante, c'est, et on le constate par la suite, c'est un arbre. Hein. Donc bâtir, ça prend quelques années, et un arbre met peut-être un peu plus longtemps que la construction d'une maison. Voilà. Les jouvenceaux, c'est-à-dire des jeunes gens, mais il peut y avoir dans l'expression jouvenceau, jouvencelle, hein, quelque chose qui tient un peu de la raillerie, de la moquerie, hein, c'est-à-dire un jeune jouvenceau, c'est quelqu'un qui ne sait pas, j'ai dit Blanc-Bec tout à l'heure, hein, qui est beaucoup plus direct, mais enfin il y a un peu de cette idée-là, hein, derrière l'idée de jouvenceau, c'est... C'est un jeune, quoi. Non pas un jeune tel qu'on l'entend à notre époque, c'est-à-dire un élément de flatterie, futur électeur, avenir de la France, etc., tout ce qu'on vous raconte, hein, mais quelqu'un qui, voilà, qui ne connaît pas grand-chose. Hein, avec un caractère peut-être un peu archaïque dans le terme jouvenceau, qui nous renvoie au Moyen-Âge, jouvenceau, jouvencelle, damoiseau, damoiselle, moins profondément archaïque, bien entendu, à l'époque de La Fontaine, parce que au XVIIe siècle, on est encore proche du Moyen-Âge. Hein, néanmoins, on a, dans sa tête, très sérieusement, tourné la page du Moyen-Âge. Hein, c'est-à-dire que, à partir du XVIe siècle, la Renaissance... On dit le Moyen-Âge, c'est une période d'obscurantisme où on ne connaissait rien. Le monde n'existe que depuis le XVIe siècle. On redécouvrira le Moyen-Âge au XIXe siècle avec les romantiques, mais très souvent, ça sera un Moyen-Âge de Walter Scott, Ivan Noé, par exemple, c'est-à-dire un Moyen-Âge reconstruit, réimaginé. Hein. Enfant du voisinage. Là, on est descendu d'un cran, d'ailleurs. Hein. On est passé de jouvenceau à enfant. Alors, on les rajeunit peut-être encore. Hein. Normalement, c'est des ados. Mais en même temps, enfant peut avoir un autre sens, c'est-à-dire... enfantés par le voisinage, c'est-à-dire qu'ils sont nés dans le coin. Hein, c'est plutôt ça. Hein. Plutôt que de passer de l'idée d'adolescent à enfant, c'est qui étaient nés dans le coin, hein, qui sont des gamins du coin. Qui se sentent ou peuvent se sentir responsables. Hein, parce que vous savez qu'on est dans une époque d'irresponsabilité totale, le voisin peut crever dans son appartement voisin, on commencera à se plaindre à la police quand ça sent mauvais. Mais bon, on est dans une époque où il y a une vie du village globale et où on s'inquiète de tout le monde. Hein, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas forcément gentil, hein, c'est pas ça que ça veut dire, mais on a vraiment la notion de vivre ensemble. Et ils ont certainement, eux aussi, la responsabilité, en quelque sorte, se sentent avoir la responsabilité de ce vieillard. Alors, après, vous avez... qu'est-ce qu'il y a à dire, déjà dans le début, hein? Un octogénaire planté, c'est la fontaine qui parle. Hein? On est dans le récit imparfait. Après, on a du discours direct. Les guillemets, passe encore de bâtir, mais planter à cet âge, disait trois jours en saut. Et après, on passe au discours indirect. Ou plutôt au discours indirect libre. Hein? Pourquoi assurément il radotait, ça n'est pas, bien entendu, la fontaine qui parle, ce sont les trois jouvenceaux. Donc les trois jouvenceaux disaient qu'il radotait, discours indirect, et assurément il radotait, discours indirect libre, puisqu'il n'y a plus, la subordination, hein, c'est-à-dire il n'y a plus le « que ». Hein, il disait que, il n'y a plus il disait que, on nous dit directement, assurément une ratotée. Donc discours direct, discours indirect libre. On revient ensuite au discours direct. Mais cette fois-ci, un discours direct qui est argumenté. Hein. Vous aviez dans la première phrase très brève un jugement. Bon, tu pourrais construire, mais va pas planter un arbre. Hein? Et la justification de ce jugement, car. Donc argumentation, connecteur logique, car, parce que, qui désigne un argument. Hein? Donc pourquoi ne doit-il pas planter, lui disent les jeunes. Quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir? C'est-à-dire, comment peux-tu profiter de ce travail? Il répondra. Hein? Alors, on peut aller à la réponse directement. Hein? Vous avez après, mes arrière-neveux me devront cet ombrage. Eh bien, défendez-vous au sage, c'est-à-dire lui-même, n'est-ce pas? Il est présenté... par lui-même comme le sage, et je pense que La Fontaine est relativement d'accord, hein, avec cette idée de sagesse du vieillard, de se donner des soins pour le plaisir d'autrui. Hein. Donc, à cette image égoïste présentée par les jeunes, qui est « mais tu ne vas pas pouvoir en profiter », le vieillard oppose une image généreuse, c'est-à-dire... J'en profiterai pas, mais attends, mes descendants vont en profiter, hein, et par une galipette, il va nous dire, l'idée que mes descendants vont en profiter, ça me rend heureux maintenant, moi. Hein. Donc, voilà, à travers sa générosité, il y a une leçon de conduite qui est, si tu mets ton bonheur dans le bonheur des autres, ben, tu as plus de chances d'être heureux que si tu le mets dans un bonheur personnel et immédiat et égoïste. Hein? C'est la leçon de vie, de morale, hein, qui est donnée ici par le vieillard. Donc, quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir? Il y a certainement un jeu de mots aussi. Hein? Le fruit du labeur, c'est-à-dire le résultat du travail, hein? Qu'est-ce que vous allez récolter de ce travail? Mais en même temps, il y a le mot fruit qui correspond à ce qui est planté, c'est-à-dire à l'arbre. Hein? Donc, double sens du mot fruit, hein? Le résultat, et puis l'évocation de l'arbre qu'il est en train de planter et qui pourrait éventuellement donner des fruits. Néanmoins, on n'est pas sûr que c'est un fruitier, puisque l'octogénaire nous dit plus loin, me devront cet ombrage. Donc là, pour l'instant, on peut penser que c'est peut-être un pin parasol ou je ne sais pas quoi, pour l'instant, qui est. Il ne parle pas des fruits. Hein, il parle simplement de que cet arbre pourrait donner de l'ombre. D'ailleurs, ce qui pourrait nous situer l'histoire dans un pays plutôt chaud, hein, mais on peut profiter de l'ombre en été un peu partout en France de toute manière. Autant qu'un patriarche, il vous faudrait vieillir. Là, je dirais, 6-7, à travers le. Qu'est-ce que c'est qu'un patriarche, hein? Le patriarche, c'est le plus vieux de la région. Hein? Et ça rappelle un système de. Une organisation sociale qui est le patriarcat, hein, qui était et qui peut rester, hein, l'organisation sociale de certains pays, certains peuples, etc. Hein, qu'est-ce que c'était que le patriarcat ? C'était l'autorité accordée aux plus vieux. Hein, c'est le plus vieux qui est considéré comme le sage, justement, ici, hein, et qui a l'autorité, en quelque sorte. L'autorité est donnée, non pas par la compétence, etc., etc., surtout pas par la jeunesse, mais c'est donné par l'âge. Hein. C'est le plus âgé qui décide. Donc là, il y a, indirectement dans la bouche des jeunes, il y a l'évocation d'un ancien système de société, qui est le patriarcat. À quoi bon charger votre vie ? Alors là, on est bien entendu dans le blâme, dans le reproche. Hein ? À quoi bon charger votre vie des soins d'un avenir qui n'est pas fait pour vous ? Hein ? Là, donc, il lui dit gentiment, tu vas bientôt crever, c'est le message. Hein, et pas nous. Hein, donc, ils ont raison, certainement, dans la première partie de la proposition, c'est-à-dire, tu vas bientôt mourir, ça, il le sait bien. Hein, ça semble être une évidence, quand on a un certain âge. Néanmoins, le supposé, l'implicite de... qui n'est pas fait pour vous, mais derrière il y a en implicite, mais qui est fait pour nous. Voilà, c'est la partie de la proposition qui n'est pas aussi sûre qu'il le croit. Et c'est la fin de l'histoire qui va nous le montrer. Hein. Quitter le long espoir et les vagues me pensées, et là ils le disent explicitement, tout cela ne convient qu'à nous. Hein. Il nous reste encore beaucoup de temps à vivre. Voilà, ça c'est la fin donc de l'argumentation des jeunes et du blâme de l'action du vieillard. Coupure, réponse du vieillard. Il ne convient pas à vous-même, donc vous n'êtes pas sûr de votre destin. Reparti, c'est-à-dire répondit le vieillard. Alors là, quelque chose d'un peu énigmatique, tout établissement vient tard et dure peu. C'est-à-dire, moi je dirais, tout ce qu'on construit dans la vie, ça met du temps à être construit, comme l'arbre va mettre du temps à pousser. Hein. C'est-à-dire, il faut toujours du temps pour faire les choses. Et c'est facile de détruire. Hein. Ça dure peu, ça dure... Voilà. Tout ce qu'on construit, ça ne dure pas longtemps. Alors, au-delà, hein, tout ce qu'on construit est éphémère. Vous connaissez ces petites bêtes, ces petits papillons blancs, qui vivent comme larves pendant 2 ans, qui émergent un jour d'été, je crois, sous les réverbères, et qui sont morts tout de suite après. Ils ne vivent, ces éphémères, qu'une seule journée. Ça fait de la neige en plein été. Hein. Avec leurs corps qui sont sur le sol, près des réverbères. Et donc, tout ce que fait l'homme est éphémère, mais derrière cette idée de tout ce que fait l'homme est éphémère, il y a l'idée de l'homme est éphémère, la vie aussi est éphémère. C'est-à-dire, la vie ne dure pas longtemps. Il y a aussi l'idée que construire, ça prend du temps, et détruire, c'est quelque chose de, bien entendu, beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Et en gros, on peut reporter ça sur les jeunes et sur le vieux. C'est-à-dire, le vieux prend le temps de planter, de construire, etc. Et les vieux lui détruisent quoi ? Son espoir, d'une certaine manière. Ils sont venus là pour lui casser son espoir. Alors, ensuite, référence à la mythologie, la main des parcs blêmes, les parcs, vous connaissez, ces trois fileuses, il y en a une qui tient le fuseau, comme dans La Belle au bois dormant, hein, sur lequel il y a la laine, la deuxième tourne le rouet, et la troisième, quand le fil est tissé, coupe le fil. Hein, couper le fil, et symboliquement, c'est couper le fil de la vie. Hein. Voilà. Donc les parcs, elles président au destin des hommes, et c'est elles qui, un peu au hasard, vont couper votre vie à un moment qui est imprévu. Donc de vos jours et des miens se joue également, là on a l'idée de divinité, donc de l'Antiquité, qui sont assez indifférentes au sort des humains. Nos termes sont pareils par leur courte durée. Là, on est dans la conclusion. Hein. Voilà, c'est-à-dire, de toute manière, bon, quelle que soit la durée de notre vie, on ne vit pas longtemps. Hein, c'est ça l'idée. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir tout de suite. Hein, ça veut dire, de toute façon, la vie, c'est pas un truc long. Hein, c'est pas un truc long. Par rapport à quoi ? Ben, regardez, par rapport à la vie de l'univers, par rapport à etc., etc. Alors, ensuite, ben, il argumente encore, hein, sous forme de questions. De questions oratoires, qu'on appelle questions rhétoriques. Hein, de questions rhétoriques. Qui de nous, déclare-t-il de la voûte azurée, bon, c'est-à-dire de la vie, en fait, hein, qui de nous, déclare-t-il de la voûte azurée, doit jouir le dernier, c'est-à-dire qui va vivre le dernier, c'est-à-dire, voilà, qui va mourir le premier. Est-il aucun moment qui vous puisse assurer d'un second seulement, hein, c'est-à-dire fragilité de la vie, à tout instant, on peut, paf, une veine qui claque, et puis c'est terminé, il n'y a plus personne. Hein. Ou un camion qui passe quand vous traversez la rue, un autocar de préférence. Mes arrières ne vont... Alors là, ce qu'on a déjà commenté tout à l'heure, hein, c'est-à-dire... si je ne profite pas de ce que je fais actuellement, eh bien d'autres vont en profiter et l'idée qu'ils vont en profiter me rend heureux tout de suite, hein, me rend heureux maintenant. Hein. Eh bien défendez-vous aux sages de se donner des soins pour le plaisir d'autrui, là il les traite très clairement d'égoïstes. Hein. Et d'ailleurs, dans ce qu'il dit après, dans ce qu'il dit là, mes arrière-neveux, il y a presque une dénonciation de leur égoïsme en disant, bon, vous dites, ils plantent cet arbre-là, même nous, on ne va pas en profiter en quelque sorte. Hein. Ça ne va être que la génération d'après qui profitera de l'ombrage. Cela même est un fruit que je goûte aujourd'hui, on l'a commenté, j'en puis jouir demain et quelques jours encore. Alors le cela même, hein, cela même, c'est l'idée que je fais plaisir aux autres. Hein, l'idée que je vais faire plaisir à mes arrière-neveux. Hein, voilà ce qu'il y a derrière cela même. Hein, l'idée que je de faire plaisir. Ça me rend heureux maintenant. J'en puis jouir demain et quelques jours encore. Et puis enfin arrive quelque chose qui ressemble un peu à une menace derrière, hein. Je puis enfin compter l'aurore plus d'une fois sur vos tombeaux, c'est-à-dire, il n'est pas tout à fait impossible que je vous survive. Et là, La Fontaine, donc rupture à nouveau, après la réponse du vieillard, vous avez là ce qu'on pourrait appeler la vérification, en quelque sorte. Alors, vérification, on le verra dans la fable suivante, c'est-à-dire dans la jeune veuve. Vérification qui se fait par une fiction, c'est-à-dire par la fable, par une histoire, mais néanmoins, bien que ça soit inventé, c'est quand même une véritable vérification. C'est-à-dire que ce que nous raconte La Fontaine, bon, ce qu'il y a d'étonnant, c'est la coïncidence, que les trois cassent leur pipe, ça c'est quand même relativement étonnant, hein, on est plutôt dans le domaine, voilà, hein, mais qu'il y en ait un des trois qui se casse la pipe, là cette fois-ci on serait beaucoup plus dans le vraisemblable. Hein. Voilà, alors La Fontaine reprend la parole, le vieillard eut raison. L'un des trois jouvenceaux, là on se réfère en même temps à une vérité, qui est la vérité de la fable, la vérité inventée.